Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour numériser, digitaliser l'administration publique dans notre pays? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour informatiser, numériser l'administration publique? On en parle aujourd'hui avec M. Zéphirin Tchaba. Il est directeur général d'Acit Learning and Solutions. Monsieur Zéphirin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, des questions et préoccupations concernant la numérisation de l'administration. Eh bien, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser aux questions judiciaires. Lorsqu'on porte plainte contre une tierce personne, est-ce qu'il faut forcément débourser de l'argent? Eh bien, nous allons en savoir dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Feza Bongonda assure la réalisation et la coordination de cette émission. Jean-Claude Siala à la mise en onde au micro. Jody Daniel Keshama, bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la numérisation de l'administration publique. Vous savez, l'outil informatique est quasi inexistant dans bon nombre de bureaux de l'administration publique en RDC. Les documents officiels sont généralement entassés dans des rayons souvent mal entretenus. Et pour imprimer un document, il faut aller dans les bureautiques installées à proximité de l'administration. Autre constat, les services des archives ont souvent du mal à retrouver facilement les documents dans la masse, la paperasse qui s'accumule au fil des années. Alors, pourquoi est-il important de numériser ou d'informatiser l'administration publique? Et qu'est-ce qu'il faut pour développer les compétences y afférentes? Eh bien, nous allons en savoir plus avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Zéphirin Tchaba. Il est directeur général d'Acit Learning and Solution. Monsieur Zéphirin, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, c'est quoi Acit Learning and Solution?
Acit est né d'abord comme un centre de formation et de certification internationale dans le domaine de IT. Donc, dans le domaine du numérique, d'une manière qui est générale. On totalise environ 10 ans où les centres fonctionnent correctement avec des traîneurs, avec des accréditations, des partenaires. Et on évolue dans ce secteur-là. On a aussi une bonne expérience à ce niveau. On a formé les entreprises privées, le public aussi y compris, le demandeur d'emploi, les étrangers, tout comme les locaux. Voilà, d'une manière générale, ce qui est de l'ACET. En dehors de ça,
j'accompagne... Vous collaborez avec Conti, voilà.
Oui, je suis le partenaire officiel. Le premier partenaire officiel en RDC de Contia. Contia, c'est un organisme international qui est le premier éditeur de formation informatique au niveau mondial. Donc, c'est lui, il travaille en partenariat avec les Microsoft, les Cisco, les Linux, tous ces éditeurs des équipements sont chez lui. Donc, c'est lui qui élabore le plan de formation.
D'accord. Bien, nous parlons de la numérisation de l'administration. D'abord, quel état des lieux vous faites de la numérisation au niveau de notre administration?
Bon, vous allez m'excuser de dire un peu inverté là-dessus. En 2019, lorsque le président de la République avait parlé de... Il va digitaliser le système administratif. J'étais parmi les gens qui ont dit c'est impossible.
Pourquoi?
J'ai plus de 10 ans dans la formation en informatique. Et l'entreprise publique apprend des formations difficilement, très difficilement. Parmi les gens qui viennent, même quand vous animez une formation, vous sentez qu'il y a un peu de malaise côté entreprise publique et côté les gens qui sont privés.
Qui sont dans les privés.
Effectivement.
Pourquoi au niveau de l'administration publique, il n'y a pas d'intérêt? Les gens ne s'y intéressent pas souvent.
Bon, prenons un exemple qui est réel. En 1998, il y a eu fête de l'Internet. Donc, jusqu'aujourd'hui, les entreprises publiques n'ont jamais emboîté un pas d'évoluer. Ce n'est pas parce qu'on vous apporte les équipements informatiques que le système est informatisé. La première des étapes, il faut d'abord commencer par développer les compétences des travailleurs avant que les projets arrivent. Mais au contraire...
Ou avant même d'amener les équipements.
Effectivement. Mais ici au Congo, vous voyez que les gens emboîtent un peu les pas. Ils commencent par apporter le matériel, apporter ceci, mais au niveau des compétences, ils n'en tiennent pas compte. Que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau professionnel. Donc, s'il y a une carence de compétences en numérique, il faut que nous soyons un peu clairs sur notre pays, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'il y ait une révolution éducative. Sur tous les plans, mais ici nous parlons d'abord de ce qui est l'informatique. Il y a une négligence au niveau des entreprises qu'on appelle un peu public, d'une manière qui est générale, public, c'est-à-dire DGI.
Les gens sont habitués à écrire à la main, à tenir des registres, tout ça. Voilà.
Il y a aussi de bons éléments qui sont au niveau des entreprises publiques, mais ils sont parfois étouffés par les responsables des entreprises publiques. Je prends un exemple qui est concret. En 2022, les techniciens de RVA nous ont écrit, ils ont besoin de formation. Je leur ai demandé, est-ce que je peux venir faire d'abord une étude avant de vous orienter? Je suis arrivé dans leur bureau, on a discuté avec les chefs du système technique et je les ai proposé les formations. Ok? Ils ont fait entrer la liste de formations. Tout d'un coup, ils m'appellent pour me dire que le DG n'a pas signé. Vous voyez, tout pareil. Mais si l'entreprise comme la RVA, le DG ne voit pas l'importance des formations, vous pensez que quelque chose va évoluer? Et 2 ans ou 3 ans plus tard, il y a des gens qui nous disent non, le Rwanda est en train de sillonner l'espace aérien congolais
et tout ça. Voilà.
Vous voyez un truc pareil. Avez-vous formé les cadres de la RVA? Est-ce qu'ils sont équipés? Est-ce qu'ils sont à la hauteur des nouvelles technologies aujourd'hui? Parce que tout évolue, tout change.
Alors dites-nous, quelle est l'importance, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de l'informatisation de l'administration? Si toute notre administration est informatisée aujourd'hui, quels sont les bénéfices?
Bon, les bénéfices d'abord, c'est on facilite d'abord un peu le travail. Il faut qu'on soit clair. Je prends un exemple où on doit faire un peu un audit sur un système quelconque ou bien un rapport X. Pour élaborer un rapport, ça va être un peu beaucoup facile. Et les gens doivent s'habituer à synthétiser un peu les tâches. Parce que avec et réduire un peu le temps de travail. Quand vous arrivez à l'entreprise publique aujourd'hui, on vous dit qu'il faut aller imprimer un document. Ça prend du temps. Et si vous avez environ 50 personnes devant vous, vous avez 1000 personnes à répondre le même jour. On est un pays qui compte plus de 100 millions, entre parenthèses. Alors, on vient chaque jour pour résoudre les problèmes de 10 personnes, 5 personnes, ou on vient pour résoudre les tâches qui doivent être faites, par exemple, dans 10 minutes.
Donc, même pour imprimer un document, c'est un problème.
On sait je vous dis que c'est notre propre pays, il faut qu'on se dise un peu de vérité. Vous savez d'abord que le pays a une grande négligence au niveau des compétences. La fonction publique engage en fonction des frères et des sœurs. Il n'y a jamais eu un appel où il y a des exigences, on veut dire on a besoin de quelqu'un qui a rempli des conditions telles. Vous savez comment les gens obtiennent les numéros matricules et consorts. Alors, tous ces gens-là qu'on récupère ne sont pas formés. Quelqu'un peut vous faire 5 ans, 10 ans dans une entreprise, il n'est pas formé. C'est déjà un problème pour une nation et pour une entreprise. Bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se réveiller le matin pour dire qu'on va numériser les Congos. Ça sera difficile.
Il faut y aller peut-être étape par étape, petit à petit.
Il faut sélectionner les entreprises. Il y a des entreprises où on peut se dire qui comptent par exemple moins de 1000 personnes. On commence d'abord par les entreprises qui sont à ce niveau-là. On numérise, on forme les cadres. Mais il y a aussi un problème qui s'ajoute au niveau de la formation. Souvent, vous allez voir les entreprises publiques aller chercher des formations à l'extérieur. Mais quand ils reviennent, il n'y a personne qui les audite pour savoir si réellement ils ont fait des formations, s'ils ont acquis les compétences.
Les compétences.
Faut, effectivement.
Alors, donc, tout commence par la formation et non pas aller acheter les équipements, tout ça.
Le premier problème de la RDC, c'est manque de compétences à tous les niveaux.
Alors, dans les domaines informatiques, quelles sont les compétences qu'il faut acquérir?
Il faut d'abord que les gens soient d'abord un peu motivés. Ça, c'est la première des choses.
Oui.
Donc, ce n'est pas directement... on peut aligner les formations, mais les gens doivent d'abord un peu activer. Il faut conscientiser la masse. Il faut qu'il y ait des conférences, il faut qu'il y ait... qu'on en parle partout, dans des églises, même dans des églises, même dans des universités, des conférences, partout en RDC. Il n'y a pas que Kinshasa qui est comme problème. Parce que si vous remarquez bien, les autorités, quand ils vous font un événement, ils le font qu'à Kinshasa. Parfois pour que le président le voie comment ils font le travail. Mais les gens qui sont à Kisangani là-bas, ils sont intéressés de quoi? Je prends un exemple. On a lancé un événement récemment, la première foire des formations. À Kinshasa d'abord. Mais les gens qui sont à Kisangani, Équateur, de Kasaï, Bukavu, Lubumbashi et consorts, en quoi ils vont bénéficier de cette foire-là?
Tout commence par la sensibilisation.
Il faut sensibiliser. Il faut vraiment un investissement au niveau de la sensibilisation.
Quel est le message qu'il faut communiquer dans cette sensibilisation-là?
Bon, d'abord, il faut d'abord commencer par organiser des formations dans des universités là où il y a d'abord les gens qui font des formations informatiques. Les universités dans lesquelles on fait, par exemple, les commerciales. Prenons un exemple où quelqu'un termine en commercial, mais il n'a même pas une certification en Excel. Un Excel qui est un outil qui permet quand même de synthétiser un peu des mathématiques commerciales. Donc, il y a des carences. Si vous voyez déjà, le niveau universitaire est perdu. Normalement, les centres de formation devaient faire un pont entre les universités et... les milieux qui est professionnel. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui termine dans une université n'a pas de compétences techniques pour lesquelles on peut l'engager. On doit être clair et transparent à ce niveau-là.
Ceux qui terminent en informatique dans les universités là.
Dans les universités. Pour quelles raisons je peux dire ça? Le Congo n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a même pas un programme unifié, un programme unique dans toutes les universités. Ça n'existe pas. On n'a même pas un programme au niveau des humanités scolaires en informatique. Il n'y en a pas. Si vous êtes journaliste, si vous sillonnez dans 10 écoles, vous allez voir que chaque enseignant informatique va vous présenter son programme à lui. Déjà, on part éparpillé. Parce qu'on est éparpillé...
On n'a pas un programme uniforme par rapport à la formation en informatique.
Effectivement. Que ça soit dans les humanités.
Que ça soit à l'université. Chaque université a son programme.
Chaque université a son programme.
Oui.
La première des choses, il faut d'abord qu'on se batte pour uniformiser un programme académique comme scolaire, mais en numérique. Maintenant, il y a un problème qui va se poser aussi à ce niveau-là. Si on cherche à uniformiser un programme, l'informatique n'est pas statique. L'informatique est dynamique. Il évolue chaque jour. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on trouve un partenaire. Il faut qu'on trouve un partenaire. Un partenaire qui doit être un éditeur de formation dans le niveau international ou dans les standards. C'est pour cela que nous, on proposait que le gouvernement opte pour travailler avec une entreprise qu'on appelle les Contia, l'est le premier éditeur de formation internationale
au
niveau mondial. C'est une entreprise américaine, il y a l'ambassade des États-Unis qui est là. Il faut, l'ambassade a aussi le rôle de faire un pont entre le système commercial de deux ou plusieurs pays. Alors, il faut qu'on trouve ses partenaires. Angola a adopté ce programme. Et entre parenthèses, je peux déjà vous dire que quand nous avons commencé des formations informatiques, le jeune Angolais quittait l'Angola pour venir faire les formations chez nous. Et moi, je les ai formés. Mais, eux qui sont venus, après, tout d'un coup, leur pays signe le contrat avec les Contia. Mais le Congo qui avait commencé est nulle part. Il n'y a toujours que deux programmes et deux programmes. Il y a la Namibie, il y a le Botswana, donc tous les pays là qui sont en train de se développer ont opté pour travailler avec les Contia. Lui, il change le cours dans la langue que vous voulez. Ils n'ont pas de problème.
Ça peut être en français, ça peut être dans une autre langue. Ils n'ont pas de souci.
Effectivement. Mmh. Et les programmes au niveau de scolaire est gratuit par rapport au niveau académique. Donc, le gouvernement peut en profiter. Comme ça qu'on élabore, parce qu'il a déjà des programmes bien élaborés. Et chaque fois qu'il y a des mises à jour, ça permet aux Congolais d'être aussi à jour. Mais tu vas voir que les enseignants ont encore des vieilles notes, parfois qu'ils reconstituent sur Internet, et certaines technologies ont déjà été abandonnées.
Et mais ils continuent à enseigner sur ça.
Effectivement. Quand l'étudiant termine, il ne sait pas où aller. Mais ce journaliste, il faut savoir une chose, que chaque année, au niveau de Kinshasa, on peut lancer sur le marché environ 5000 étudiants ou 5000 ingénieurs informaticiens. Alors, imaginez-vous, vous lancez 5000 personnes dont aucune personne ne peut pas passer une certification internationale dans un domaine X, même développement des applications, même le support, gestion de support, même administration réseau. Mais c'est que les universités, vous n'avez rien foutu.
Et qu'est-ce que vous appelez certification?
Certification, c'est reflète les compétences sur une matière X. C'est que je viens de vous dire que aujourd'hui l'université et les terrains professionnels ne matchent pas, ne se synchronisent pas. Alors il faut les centres de formation. Mmh. Les centres de formation doivent suivre les programmes qui sont accrédités. Donc ils ont un planning et certification, c'est-à-dire nous avons un centre où quand tu as fini ta formation et tu as fini ta préparation, tu dois maintenant venir pour avoir une spécialisation dans le domaine que tu veux. Entre autres, cybersécurité dont les gens parlent aujourd'hui, et administration réseau, gestion de serveurs, gestion d'utilisateur, tout ça, ça fait partie des compétences que la personne doit avoir. Une fois que quelqu'un a ces papiers-là, ça prouve. Donc le recruteur, quand il regarde les papiers, il se dit, ici je suis devant quelqu'un qui maîtrise la gestion des utilisateurs, un exemple. Mmh. Ou soit, par exemple, les réseaux de stockage. Alors, quand on finit à l'université, on n'a jamais vu un serveur, on n'a jamais vu un routeur, on n'a jamais vu quelque chose.
On n'a jamais vu ça, donc on est bourré de théories.
Personne ne viendra te chercher. Au moins, les jeunes aussi qui se battent, qui ont déjà des informations, qui peuvent venir dans des centres, qui peuvent aussi voyager, et au moins, ils ont cette chance-là. Mais le gouvernement parle toujours qu'il faut donner la chance à tout le monde, que l'éducation pour tout le monde. Mais il y a les autres qui ne sont même pas informés. Mais ce jour-là, si je vais encore vous dire un truc, la RDC, c'est un grand pays, avec environ 26 provinces. Mais il n'y a qu'à Kinshasa où on trouve au moins deux centres de certification. Et partout ailleurs, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Alors, vous voulez maintenant...
Alors, vous dites, la première chose pour numériser l'administration, il faut commencer par conscientiser la masse. Il faut sensibiliser.
Il faut sensibiliser la masse.
Il faut montrer aux gens qu'il y a un besoin.
Il y a un besoin, effectivement.
Voilà. Et après la sensibilisation, quelle est l'étape suivante?
L'étape suivante, maintenant, il faut chercher à développer les compétences au milieu des utilisateurs, d'abord finaux. Parce que les techniciens, ils se débrouillent. Mais les utilisateurs finaux font partie d'abord des problèmes, d'abord dans la fonction publique. Ils sont là, mais beaucoup n'ont même pas des ordinateurs, vous le savez quand même. Tous, il faut toujours que la communauté internationale puisse donner les dons, Union européenne et consorts. Mais si vous voulez équiper une entreprise comme publique avec les dons, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Parce que j'ai des preuves aussi au niveau du centre. quand un grand frère vient payer une formation pour son petit frère, c'est difficile que le petit frère puisse s'engager. Mais si c'est le petit frère lui-même qui s'est battu, qui a dépensé son argent, vous voyez qu'il va aller jusqu'au bout. Contrairement et autrement, les entreprises publiques doivent aussi s'autofinancer. Si pour gérer vraiment votre environnement de travail, il faut qu'on vous donne toujours un don de 4 serveurs, de 5 switches, on ne va jamais évoluer.
Donc, après la sensibilisation, il faut développer les compétences. Alors, faut-il prendre seulement les informaticiens qui sont déjà dans ces entreprises-là ou il faut former tout le monde?
Il faut former tout le monde. Le pays a beaucoup de compétences. L'unique chose que nous souffrons, qui fait que la RDC souffre, c'est manque de compétences. On peut être fort, mais on n'a pas développé les compétences qu'on a par manque d'informations aussi. Ça arrive. Il y a des gens qui terminent, là, finissent l'université. Mais quand il vient au centre, vous lui parlez, par exemple, il y a une formation de comptia. Pour lui, c'est la première chose. Donc, c'est sa première fois qu'il entend ça.
Qu'il entend parler de comptia.
Oui. Mais tu te poses la question, comment tu as fait la formation? Parce qu'on dit que lui, il est le premier éditeur. C'est-à-dire, ton formateur, ton professeur, devait d'abord être informé. Il y a un éditeur là où on peut épuiser des formations et qu'on peut donner aussi aux autres. Donc, il y a d'abord un manque de cette information-là qui joue un grand rôle. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que non, numériser dans un pays où il n'y a pas du courant, ce n'est pas... C'est impossible.
Mais d'ailleurs, il y a les auditeurs qui nous le disent. Par exemple, Beligui Kambui nous a écrit... Il dit, il est à Kananga, au Kasaï central. Il dit, notre administration archaïque présente plusieurs faiblesses telles que perte des dossiers de plusieurs agents, un suivi réel des situations des agents gradés, masse salariale, beaucoup, voilà, d'où il faut digitaliser l'ensemble de l'administration, mais nous aurons un défi, celui du courant électrique pour faire fonctionner le matériel informatique.
Il n'a pas tort. Mais je peux lui dire aussi que à Kananga, là-bas, il y a aussi des banques qui fonctionnent. Comment les banques fonctionnent? Il y a aussi Finca Kananga, il y a aussi le Western Union, il y a beaucoup de choses. Comment ils fonctionnent? Parce que c'est numérique. Est-ce qu'il y a du courant?
Ben, il n'y a pas du courant.
Il y a, hein, il y a des solutions.
Oui, il y a des solutions.
Voilà. Donc, s'il y a des solutions, qu'on mette un peu les problèmes du courant à côté. Il faut d'abord les compétences. Les banques, là, et tous ces gens-là ont formé les gens. S'ils ont un groupe électrogène, c'est que le groupe doit être entretenu par quelqu'un qui a des compétences. Ce qui est différent avec les gens qui sont dans des fonctions.
Donc, il y a électricité ou pas, d'abord, c'est,
si c'est ça, gens, c'est pas le... Si les gens n'ont pas de compétences techniques en numérique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Et pouvez-vous énumérer ces différentes compétences? Généralement, on apprend qu'on a besoin d'un administrateur réseau, quelqu'un chargé de la maintenance, quelqu'un... Quelles sont ces différentes compétences qu'il faut développer?
Bon, d'une manière un peu basique pour faire comprendre à tout le monde,
oui.
La première étape pour entrer en informatique, il faut être au moins un IT support, un technicien support.
IT support?
Oui. Un technicien support, c'est quelqu'un qui a fait la formation de CONTIA A+. Il a fait les hardware, il a aussi fait les software. Et dans cette formation-là, il y a les gens qui... Il y a maintenant les notions sur la cybersécurité pour un débutant. Il y a aussi les notions sur les réseaux et consorts. Ça, c'est le premier niveau. Normalement, c'est un niveau qu'on... Si le gouvernement pouvait nous écouter, il fallait insérer ces programmes au niveau des graduats.
Et c'est quoi le travail d'un IT support? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien?
Au quotidien, c'est celui qui accompagne une entreprise. Chaque fois qu'il y a un problème, il peut les résoudre pour que les gens qui sont dans le département peuvent continuer avec un service. Je prends un exemple.
Il fait le dépannage en quelque sorte.
Il fait le dépannage, il résout le problème. En tout cas, il ne faut pas le comparer comme un dépanneur simple parce que il doit stabiliser tous les problèmes que vous avez dans votre entreprise afin que le travail soit clean.
Oui.
Voilà. Donc, si lui n'est pas là, c'est que le système
ne va pas marcher,
il y aura
des problèmes.
Effectivement. Alors, imaginez-vous, on vous apporte des matos un peu à des lignes au niveau des entreprises publiques. Les IT supports ne sont pas préparés. En cas de panne, qu'est-ce que vous allez faire? Je me rappelle, les gens de la EPSP sont venus un jour au bureau, on avait placé des matériels un peu, des matériels de Cisco chez eux. Quand ils ont eu une panne, d'abord, il y a eu le problème de la langue. Quand ils ont eu une panne, disons, cherché à contacter les gens de Cisco, ça créait un problème. Il n'y avait pas aussi une formation après le déploiement des matériels. Ils sont là, ils peuvent, vous pouvez les appeler EPSP. On a causé avec eux, il fallait faire la formation. Et la formation, pouf, le ministre n'a pas signé, celui-ci n'a pas signé. Vous savez comment ça fonctionne. S'il y a la numérisation, on peut savoir où se trouvent les dossiers tels, pourquoi lui n'a pas signé. Mais quand il n'y a pas la numérisation, le dossier peut entrer chez vous et vous, vous jetez ça. Personne ne va... Personne ne va vous demander, personne ne viendra vous demander, mais... Mmh. Oui. Alors, ce sont des problèmes que nous croyons. Ça, c'est le numéro un. Il faut les IT support, les gens qui font des supports sur les matériels informatiques.
Bien, nous avons un auditeur en ligne. Il s'agit de Patty qui nous appelle depuis Bandundouville. Patty, bonjour. Bonjour, Patty. Allô? Allô, Patty, vous êtes là? Allô? Ben, je pense que Patty est ailleurs. On va poursuivre cet entretien. Il va peut-être nous rappeler après. Vous avez dit, premièrement, on a besoin des IT supports. Les IT supports. A+, qui ont suivi la formation. A+, qui peuvent résoudre les problèmes qui peuvent se poser dans une administration. Alors, deuxième compétence, ou autre compétence à développer.
Nous avons maintenant les administrateurs réseau.
Administrateurs réseau, oui.
Les gens qui ont fait ce qu'on appelle les Network Plus.
Ok.
Ça, c'est chez les Contia, ou soit les Cisco, c'est la même chose. Mm. Mais quand on parle de Network Plus, ça, sont des administrateurs réseau. Ce sont des gens qui peuvent gérer une infrastructure réseau informatique.
Ok.
Vous voyez, maintenant, il y a d'abord une différence. Les réseaux sont conçus, il y a les gens qui les gèrent, mais il y a les gens qui s'occupent de support. Ce n'est pas le même travail. Mais non. J'ai fait d'abord une parenthèse. Mm. Quand quelqu'un termine les universités, s'il voit une offre d'IT support, il postule. Il voit l'offre d'administrateur réseau, il postule. Mais en dehors de son titre académique, il doit savoir qu'il n'a pas encore de compétences pour assurer ces services.
Et c'est quoi le travail de l'administrateur réseau?
L'administrateur réseau, son rôle est de configurer les équipements, et de les sécuriser aussi. Il y a des équipements réseau comme les switches, comme les routeurs. Il peut aussi faire le monitoring de tout ce qui se passe. Il peut donner les jonctions à une équipe. Donc, partage des fichiers. Il y a beaucoup vraiment de solutions qui doivent être faites à ce niveau-là. Il doit aussi donner le rôle à certains techniciens. Donc, toi, tu dois t'occuper des départements X, l'autre va s'occuper des départements Y. Mmh. Administrateur réseau A pour ce rôle-là.
D'accord. À part les deux, la troisième compétence.
Il y a les sécurités réseau.
Sécurité réseau.
Nous avons les sécurités réseau, les sécurités informatiques. Mmh. Ouais. Alors, les techniciens de sécurité, lui, il doit apporter les compétences sur la gestion des accès au niveau de l'entreprise, savoir qui a le droit d'exécuter une tâche telle et qui n'a pas un droit d'exécuter. Parce que quand vous êtes dans un environnement de travail, quelqu'un peut venir et lance une impression sur votre machine. Et parfois, il a été interdit. On remarque qu'il a imprimé un document qui est top secret. Voilà.
Oui, il est interdit de visiter certains sites.
Effectivement.
Il peut bloquer tout ça.
Parce que la sécurité, d'abord, est au niveau physique. Il monte aussi au niveau logique. Mmh. Donc, on peut aussi sécuriser d'abord ce qui est physique, comme salle de serveur ici. Quand j'entre, je ne vois pas ça. C'est sécurisé quelque part. Mmh. Et il y a aussi les accès maintenant dans le réseau qui sont autorisés d'accès et qui ne sont pas autorisés. Au niveau interne, tout comme au niveau externe. Mais la sécurité est aussi vaste. Je suis en train de donner un peu le flash.
Oui, juste l'essentiel. Voilà, à part les techniciens, sécurité réseau, quelles sont les autres compétences?
À part sécurité réseau, c'est là où on attend maintenant ce qu'on appelle la cybersécurité.
Ok.
Donc, la cybersécurité, vous voyez que c'est un schéma. Ce sont les gens qui doivent contrôler, qui doivent faire les tests, de savoir s'il y a eu des instructions. Je prends par exemple, on peut avoir un équipement ici, quelqu'un de l'extérieur entre. Lui, il a déjà les alertes. Même s'il n'entre pas, mais il a déjà quelqu'un qui tente
d'entrer, voilà.
Effectivement.
Dans les systèmes.
Effectivement. Donc, la cybersécurité doit contrôler, doit vraiment analyser du réseau, mais au niveau de la sécurité interne tout comme externe. C'est aussi une branche un peu vaste.
Il y a beaucoup de choses à l'intérieur.
Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a les pen tests, il y a les experts et consorts.
Voilà. Bien, on va prendre Patty des bancs de Nouville. Bonjour. Patty, bonjour. Il n'est pas toujours en ligne. Emina Mwanda, Patty, vous êtes là? Allô? Voilà, Patty n'est plus là. Jean-Claude nous appelle de Kindu. Bonjour Jean-Claude.
C'est Emina. C'est Emina.
Oui, Emina Mwanda de Bukavu. Bonjour.
Bonjour monsieur, jeudi, bonjour à tous les invités ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne.
Bien,
bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la numérisation de l'administration publique?
Bon, je sais très bien que ce sont des bonnes innovations qui ne devraient pas souffrir d'aucune mesure d'accompagnement. Nous savons que c'est parmi les œuvres de la bancarisation que l'honorable Matata Ponyo avait laissé à l'administration publique, et ce qui a permis de balayer les agents fictifs dans les fichiers de paye. Mais de ce que moi je connais, nous pouvons tous interpeller seulement ou soit négocier à ce que les autorités ne puissent pas politiser cette numérisation là-bas, parce que les temps se trouvent surchargés dans certains niveaux avec les phénomènes de fictivité des agents. Et nous sommes ici à Bukavu, nous voyons comment les gens sont en train de passer pour chercher au moins les contrôles physiques. Il y a même des services actuellement qui payent de l'argent pour qu'ils soient contrôlés, ce qui n'est pas bon. Mais normalement, il fallait d'abord commencer par se poser la question de la manière dont cela peut se faire dans de bonnes conditions et pour que celui-ci ne puisse pas être maintenant un casquette et en travaux soit décourager les gens. Et le monnayage dans ce système-là, je pense que c'est devenu une monnaie courante.
Je ne sais pas de quel système vous parlez. Nous parlons aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut faire pour informatiser notre administration, que toute l'administration congolaise soit informatisée, qu'on puisse former des techniciens en informatique, etc., pour gérer plusieurs personnes. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité par rapport à cela?
Ma première question est d'abord de savoir est-ce que le moyen seront disponibilisés, parce que nos universités sont là, produisent toujours les cadres informaticiens qui pourraient durer, parce que moi j'ai l'expérience de l'ISP, il y avait d'abord un étudiant à l'ISP qui avait créé une base de données, soit un système de ne plus signer dans les registres de présence dans le quoi là, quand on arrive au service. Il lui avait créé une application. Une fois arrivé déjà, l'application va vous identifier, vous êtes là, et le temps que vous serez en train de sortir, on va signaler. Ça, ce sont des bonnes innovations. Mais selon moi, ce qu'il faut faire actuellement, c'est d'abord d'étudier les possibilités d'appliquer ce système-là parce que j'avais encore dit, mais c'est jeudi. C'est un système qui pourrait aider beaucoup plus l'État d'alléger la tâche. Parce que quand on y met tous les systèmes au niveau de l'État, soit tous les agents, cela peut aider à ce que qu'il y ait la suppression des agents fictifs et de certains établissements fictifs que l'État se trouve payé et qui n'existent pas.
Merci Emina Mwanda. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour cher Jody, bonjour aussi à l'invité et à l'ensemble de vos auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Jody, d'aucuns savent que le système administratif de notre pays a totalement vieilli et d'où il y a une nécessité de pouvoir numériser notre administration. Mais la question que je me pose, c'est de savoir comment on va y arriver. Quand bien même nous avons certains chefs de division, il y a certaines divisions où même les chefs de division ne connaissent pas manipuler l'ordinateur. Et lorsque vous entrez dans un bureau, vous trouvez les dossiers se trouvent dans des classeurs, des vieux classeurs de 1990, où tous les dossiers sont en lambeaux. Donc, heureusement que l'invité a pu donner l'exemple de là où il était invité au niveau de la RVA, où il y a eu toujours des problèmes. Moi, je pense que cette sensibilisation qu'il est en train de parler, il faudrait commencer à sensibiliser les autorités de ces pays. Aujourd'hui, nous avons tout un ministère, je ne sais pas si pendant ce remaniement ici, on a mis à côté ou on a repris, c'est le ministère des numériques. Mais on ne sent pas vraiment l'importance de ce ministère. Parce qu'il y a, nous qui sommes ici dans l'arrière-pays, nous sommes à Pounia, à Kasongo, à Kibombo, voire même à Kabambare là-bas, où là c'est pire, plus que même dans les divisions ici. Donc, on ne connaît pas. Nous avons chaque année, il y a l'ISC, il y a l'ISP et d'autres institutions qui nous produisent des licenciés en informatique. Mais fort malheureusement, on est en train de constater sans notre vouloir que rien n'est fait jusque-là. Et même aux humanités ici, on dit non, il y a les cours, mais il n'y a pas d'ordinateur. On donne des TP, par exemple, c'est sur le plan théorique, où on vient au tableau, on est en train d'enseigner. Donc moi, je pense que nous avons encore fort à faire si nous voulons vraiment revenir au diapason des autres pays africains. Et au Bénin, par exemple, les cours de l'informatique, c'est à partir de l'école primaire. Nous, on a eu la chance d'être là où on voit même, c'est peut-être un enfant de deuxième ou de troisième qui est en train de vous montrer qu'est-ce qu'il lui est en train de faire. Alors que ici, avoir l'ordinateur, c'est vraiment, ça coûte les gens à toucher les yeux du pape. Donc, c'est pas un problème d'avoir des fournitures, tout ça, mais c'est une question de pouvoir d'abord sensibiliser cette population. Et qui doit sensibiliser cette population? Ce ne sont pas des associations, c'est d'abord l'État congolais qui il doit prendre en charge toutes ces situations à main ou à bras le corps pour que les gens puissent savoir ce qu'ils sont en train de faire. On a l'INPP ici, mais on ne sent pas vraiment l'importance de l'INPP. Donc c'est ça ma petite contribution aujourd'hui, Daniel Kachama.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Zéphirin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Non, le premier auditeur, d'abord, il a ajouté, il n'a pas posé la question, mais il a justement accompagné dans ses dires. Le deuxième aussi, un peu de même. Et tout le monde parle toujours, il faut chercher à sensibiliser. Il y a le ministère des numériques qui est là. Et le ministère des numériques a signé un contrat avec une entreprise de la Pologne. Et dans ce contrat, il est question de redynamiser les infrastructures informatiques et d'améliorer les compétences des fonctionnaires. C'est ce que j'ai lu en passant rapidement. Bon, c'est une bonne initiative, mais qui n'est pas soutenue à mon niveau. J'ai quand même une bonne connaissance à cette histoire. Quand il dit ils vont former les fonctionnaires, c'est quel genre de fonctionnaires qu'il faut former? Parce que le problème que nous avons d'abord, c'est au niveau de la base. Si au moins l'université pouvait, au moins le gouvernement pouvait s'investir afin que chaque université ait d'abord l'université dans laquelle il y a l'informatique, ait une académie informatique. Équipé, s'il vous plaît. Pas avec les dons de la Banque mondiale et vos histoires là, je ne suis pas là, s'il vous plaît. Il suffit seulement que les deux députés vendent les deux véhicules, on peut d'abord récupérer une université. Donc, ces histoires là de Banque mondiale va soutenir, si je va soutenir,
on
je
doit
suis
laisser
pas
ça,
là.
Tout ça, attendre ce que
ça n'avance personne. Ça n'avance personne. Alors, si au moins, on a au moins 26 provinces, si au moins d'abord, ils peuvent se battre, d'imposer à chaque université de la province, au moins d'abord une université, équiper cette université avec une académie. Quand on parle de l'académie, l'académie est équipée sur le plan matériel, sur le plan des formateurs et sur le plan des certifications. Donc, tel que c'était à la Lunikine un jour, il y avait une académie Cisco qui était là.
Aujourd'hui, ça n'existe plus.
En tout cas, je ne sais pas, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas aussi la certification internationale. Là-dedans, ça devient un peu comme un truc qui est privé. Mais on peut revoir cette histoire. Que chaque province peut nous faire sortir au moins 200 personnes chaque année qui sont certifiées, qui ont aussi des compétences d'apporter une valeur X. Mais fort malheureusement, quand on va apporter... J'ai participé dans un projet à Kisangani. Ce projet a été piloté par CFF. Donc on parlait de la gestion des chaînes de dépenses et consorts. C'est depuis 2015 de Kabila et ça a été... On cherchait à concrétiser ça en 2021 avec le président Félix. Où on est avec ce projet? Les gens de Kisangani n'ont jamais été formés jusqu'à aujourd'hui sur ce projet. Qui vont gérer ces matériels? On a placé les matériels là-bas sans formation.
Sans formation, mais comment est-ce qu'ils vont utiliser ces matériels?
J'ai participé dans ce projet en dernière minute et c'était catastrophique.
Eh bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Olivier Ndouba de Kisangani, Albert est à Kinshasa. Olivier, bonjour.
Bonjour ma radio préférée. Bonjour également vous, messieurs les journalistes. Également, je dis bonjour et merveille à notre invité qui est sur votre plateau. C'est Olivier Ndoumba depuis Kisangani.
Oui, Olivier, quelle est votre question par rapport à la numérisation, à l'informatisation de l'administration?
Ok, merci beaucoup pour la thématique. Nous vous félicitons d'abord pour ça. Déjà, je pense que je viens d'en finir en informatique. J'essaie les choses qui se font là-bas. Nous n'avons pas trop à dire, soit nous n'avons pas de questions. C'est juste que nous avons quelque chose à ajouter pour que nous ayons une bonne démarche au sein de notre pays. Vous savez, cette histoire-ci, ça complique la situation. Même moi, quand j'étais un co-étudiant en G3, je crois, à l'époque, même pour qu'on puisse nous accepter de passer les stages dans des grandes sociétés de la place, on nous refusait toujours. On nous refusait toujours que nous ayons l'accès par rapport à ça. Moi, j'ai qualifié de ça comme étant quelque chose de, comme je, c'est ce que j'ai fait au commentaire là-bas. C'est-à-dire, les gens qui font partie dans des grandes sociétés, ils ne veulent pas qu'il y ait la numérisation ou quasiment des applications ou des logiciels qui seront installés dans leur société pour justement qu'ils soient toujours à la base des détournements de fonds, si moi j'ai qualifié de ça. Parce que moi je vais créer une application pour un centre de santé ici à Kisangani, parce que je suis aussi un handicapé. Je pensais à mettre en place une application qui cible beaucoup plus les gens de notre catégorie et on sait de cet institut sanitaire-là. En tout cas, j'avais présenté les projets et l'application logicielle auprès des directeurs des centres de santé. Il a été vraiment très heureux, très content, mais il m'avait toujours dit que non, ici chez nous, nous ne disposons pas des ordinateurs, des machines ordinateurs pour nos agents. Vous voyez, ça aussi, ça fait partie. C'est l'une des causes également qui fait en sorte que non, ce genre de choses ne soient pas vraiment adaptées. Vous voyez, c'est juste cette petite contribution que je voudrais en profiter en ce jour pour la grande radio Okapi.
Merci Olivier, merci beaucoup. On va donner la parole à Albert de Kinshasa. Bonjour.
Hey, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Bien, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour numériser l'administration? Oui, et quelle est votre question?
J'ai une question, en même temps aussi une suggestion. Mm-hmm. Ma première question s'adresse d'abord à l'invité. Après son constat à la RVA, qu'est-ce que lui a fait comme suggestion aux autorités? Monsieur le journaliste, je donne beaucoup raison à un parlementaire qui avait fait allusion à l'Éthiopie lors d'une plénière comme ça. Il avait dit que nos amis éthiopiens sont développés dans l'aviation parce qu'ils avaient orienté leurs enfants selon l'évolution du service d'aviation. Ici, chez nous, en RDC, nous n'avons pas du tout cette culture-là de chercher à nous adapter selon le développement ou bien selon l'évolution technologique au travers le monde. Ça m'avait fait beaucoup de pitié au cœur lorsque nous avions effectué une descente dans l'île de nos maisons communales ici à Kinshasa. C'était dans le cadre des collectes de données pour la réalisation de notre travail de fin de cycle sur la déclaration des nouveaux-nés à l'état civil. Nous avions demandé à un officier de l'état civil pour nous fournir des informations comment évolue le système. Mais le monsieur là, pour nous donner juste les données, il avait dit que non, c'est catégoriquement prohibé ici dans l'administration publique de l'État d'informatiser le système. Maintenant, vous vous demandez, à ce 21e siècle ici, une institution telle que la maison communale peut rester comme ça sans être digitalisée? En tout cas, ça fait beaucoup mal au cœur. Ce que nous suggérons, et de faire d'abord la sensibilisation, faire connaître aux autorités c'est quoi la numérisation. Le système manuel a beaucoup de conséquences. En cas d'incendie, vous allez perdre tous les documents je peux faire allusion dans le système judiciaire. Vous pouvez perdre toutes les données, mais si le système était digitalisé, vous aurez cette possibilité de pouvoir les récupérer après. Maintenant, que les autorités prennent en considération les domaines informatiques. Il y a beaucoup d'institutions supérieures qui ont des facultés informatiques. Mais si vous vous rendez dans une salle de labo, vous regardez la quantité de machines ordinateurs que les étudiants font la pratique. vous allez regretter que nous ici au Congo, c'est comme si les autorités ne prenaient pas en considération le domaine informatique. Ça, c'est qui était ma contribution.
Bien, merci beaucoup pour cette contribution, Albert. On va donner la parole à Thomas Debounia. Bonjour, Thomas.
Bonjour, monsieur. Monsieur Jody, bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi. Moi, je pense que monsieur Jody, la numérisation de la fonction publique ici chez nous en RDC a une importance vraiment très capitale pour la modernisation, par exemple, de l'administration publique, mais aussi cette importance-là se situerait également à l'amélioration des services aux citoyens et la lutte contre la corruption. Mais on a beaucoup de défis, notamment technologiques, parce qu'il y a des prédécesseurs qui ont parlé ici des défis. Parce que vous imaginez, je vais prendre l'exemple même du système LMD. On a instauré le système LMD dans notre pays, mais le système LMD prône à ce que c'est l'étudiant qui est au centre de sa formation. Et avec ça, avec les LMD, on n'est même pas censé d'être tous les jours au cours. On peut même suivre des cours à travers, à ligne, avec des ordinateurs, mais si vous faites un constat, la plupart de nos universités où les étudiants ne sont pas équipés en ordinateur, c'est déjà des défis partout. On voit qu'actuellement, c'est la technologie qui évolue. On n'est pas censé seulement d'écrire au tableau. On peut même suivre les cours à travers, à ligne, à travers des ordinateurs, mais on a des défis technologiques et organisationnels à relever. Et donc, c'est vraiment indispensable que les autorités congolaises s'investissent dans la numérisation de l'administration publique pour garantir un service public efficace, mais aussi transparent au service. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai des préoccupations à poser à l'invité.
Oui.
Quelle est l'importance de la numérisation de la fonction publique sur les relations, d'une part, entre l'administration et les citoyens? Quelle est l'importance de la numérisation entre, d'une part, l'administration et les citoyens? Et la deuxième question, l'invité a parlé ici de cybersécurité. J'aimerais poser la question, quelles sont les mesures à prendre pour assurer la cybersécurité des données gouvernementales dans le cadre de numérisation de la fonction publique? Parce que l'invité a parlé ici de la cybersécurité parmi les moyens. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour assurer la cybersécurité des données, surtout des données gouvernementales, dans le cadre de la numérisation de la fonction publique en RDC? Ça, mes deux petites préoccupations, et c'est tout beau début de la semaine, monsieur Jody.
Merci Thomas, et un auditeur qui nous signale aussi qu'il y a une académie Cisco qui fonctionne en permanence à l'INPP. Monsieur Zéphirin Tchaba, vous avez la parole.
Je commence d'abord par Monsieur Albert. Albert de Kindé, je pense, il m'a
de Kinshasa,
il a demandé
quelles sont les suggestions que vous avez fait à la RVA.
Non. Moi, je suis on est un privé. C'est la RVA qui était. Ce sont des techniciens qui étaient venus vers nous. Je les ai proposés. Je suis allé sur leur site. J'ai dit avec ce que vous cherchez, il faut aussi ajouter des informations telles. Ce n'était pas à moi d'écrire. À moi d'écrire à leur DG, ni à écrire à qui que ce soit, ni à une autorité X. Non, ça n'a pas de sens. Moi, je suis un vendeur de solutions, je vends les compétences et je me limite par là. Je suis apolitique. Néanmoins, j'en parle aujourd'hui pour dire qu'il y a une négligence de la formation au niveau des entreprises publiques. Les DG veulent voyager et laisser les travailleurs au Congo, et sans, avec ou sans formation, on s'en fout, entre parenthèses. Je reviens sur notre ami, deuxième ami, c'est
Thomas Debounia qui dit l'importance de l'administration, de la numérisation, les services rendus aux citoyens, tout ça. Okay. Qu'est-ce que ça améliore?
Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris sa question, parce qu'il voit l'administration publique, il me parle des citoyens. Je ne sais pas ce qu'il voulait me faire voir à ce niveau-là. Mais si j'ai bien compris sa question.
Par exemple, les citoyens ont besoin des documents quand ils viennent à l'administration, tout ça, à la commune.
Mais ça, on en a parlé.
Informatisé, ça va aller vite.
Ça va aller plus vite. Ça, on en a déjà parlé au début pour dire que lui-même, il a même parlé, ça serait une qualité fiable et rapide.
Et ça facilite l'archivage des documents. On peut retrouver facilement.
Et il y a aussi des documents qu'il faut aussi déclasser une fois que c'est dépassé un certain âge. Les documents ne doivent pas être éternels. Au moins qu'ils soient des documents parcellaires et qu'on sort. Il y a certains documents, quand on parle de gestion des informations, les informations ont une durée de vie.
Après autant d'années, on déclasse.
Effectivement. On déclasse. Alors, je reviens sur l'aspect de cybersécurité. La première des choses qu'il faut savoir, mon cher ami, c'est que d'abord, il n'y a pas l'infrastructure réseau au niveau de la RDC. Il faut d'abord commencer par centraliser toute l'administration sur le plan informatique. Lorsque les informations sont centralisées, on peut les contrôler et on peut limiter les accès. On peut savoir qui a voler ces documents, on peut lancer les recherches pour détecter qui a fait ceci, qui a fait cela. Mmh. Mais si ce n'est pas centralisé, et comme c'est éparpillé comme ça est là, on ne peut pas assurer la cybersécurité sur les parcs qui sont éparpillés. Donc, la gestion centralisée des entreprises va permettre, donc on centralise tout l'administration
dans les serveurs,
un data center, tout le monde est compté là-bas, on a éparpillé, ça c'est pour OCPT, ça c'est pour un tel service, c'est comme ça. D'abord c'est centralisé, on les contrôle, on peut savoir qui est entré là-bas, qui est entré de ce côté là. On peut ajouter les outils de cybersécurité, on peut aussi former les cadres pour commencer à analyser le trafic entrant et sortant, sans oublier que même en interne on peut aussi avoir les hackers, les voleurs des informations. Ça, c'est une étude, c'est pas ici, hein. C'est pas ici. D'abord, quand on cherche d'abord les A+, où vous cherchez déjà les cybersécurités, c'est un grand écart. Ne suivez pas les langages des politiciens.
Donc, on a besoin de toutes les compétences, on a besoin des IT support, les administrateurs réseau, ceux qui sont les techniciens des réseaux, tout ça, et puis ceux qui sont dans la cybersécurité.
Effectivement, c'est un acheminement de travail. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le support, qui ne connaît pas les réseaux, il vous dit qu'il est expert en cybersécurité. C'est un mensonge. Il va sécuriser quoi?
Mais au niveau de nos universités où on forme les techniciens en informatique,
est-ce qu'ils ont les cours à jour? Ils ont un programme de formation à jour? Commencer par vous dire, il faut d'abord commencer par uniformiser
le programme
de formation. Et on ne peut que le faire avec un éditeur, avec un partenaire. Comme ça, à chaque fois qu'il y a les mises à jour, le formateur, les enseignants sont informés. Parce qu'il faut aussi créer ce qu'on appelle le train des traîneurs. Donc, il faut former le formateur. À chaque fois, même une année, après 2 ans, c'est un programme, c'est-à-dire il faut coopérer, le gouvernement congolais coopère avec des entreprises qui sont les éditeurs de formation.
Comme Cisco, comme Comtia.
Non, Cisco est limité. Cisco est limité.
Et pour quelqu'un nous a dit qu'il y a Cisco qui fonctionne à l'INPP. Voilà.
Je ne veux pas avoir de problème avec l'INPP. Mais on doit être un peu sérieux. Là où il y a l'académie, il y a la certification internationale. À l'INPP, il n'y a pas un centre autorisé pour passer l'examen international. Donc, je me réserve.
Donc, il faut plus coopérer avec Comtia, par exemple, qui est un formateur au niveau Comtia. Mondial.
Qu'il ne parle pas de l'histoire de Comtia, parce que quelqu'un a l'accès sur une petite plateforme. Non. Il y a au moins une académie à l'ISTA, de Cisco. Donc, quand quelqu'un termine, il peut aussi faire un challenge, il entre, il passe son examen, il peut réussir.
Pour avoir la certification.
Effectivement. Donc, INPP.
Et là, vos compétences sont reconnues au niveau mondial. Partout.
Effectivement, c'est un diplôme international. C'est pas un truc qui est limité. Là, non, j'ai fait INPP, ça se met au Congo, non. Mais même le INPP, le monsieur qui a appelé à Kindu, il a dit, il y a même INPP là-bas, mais ils ne sentent rien. INPP sont aussi appelés à intégrer le programme de Comtia. Ça va permettre chaque fois d'évaluer les formateurs.
D'accord. Alors, ceux qui sont intéressés, on est presque à la fin de cet entretien, ceux qui sont intéressés, comment peuvent-ils vous contacter?
Non, nous avons un site internet, acidtraining.com, et nous avons un numéro de téléphone, 217-081-217-2626. C'est lui qui a besoin de travailler avec nous, il peut passer, et on peut lui mettre en contact avec les partenaires et lui montrer comment ça évolue. Mais, comme conseil, je préfère que le gouvernement s'engage.
Que ce soit beaucoup plus. Mais il y a un ministère du numérique. Est-ce que vous collaborez avec ce ministère?
On ne collabore pas. Quand on donne un ministère, quand le ministre, vous êtes ministre, à faire des choses, il faut être fort dans des récoltes des informations. Il faut voir qu'est-ce que nous avons en local qui peut nous être utile. Je prends un exemple. Le ministère du numérique a signé le contrat avec une entreprise donc que de la Pologne, qui va former les cadres. Est-ce que les agents de la Pologne déplacent les Congolais qui sont ici en local? Il y a des gens qui sont venus en Europe avec les présidents de la République. Ils croyaient qu'ils vont trouver les terrains vides. Ils sont rendus compte que les Congolais en locaux sont plus intelligents.
Ils sont plus aguerris aussi.
Effectivement.
Merci beaucoup, Monsieur Zéphirin Tchaba. Je rappelle que vous êtes le directeur général des ACIT Learning and Solutions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'occasion de revenir sur ce dossier, l'administration, la numérisation, informatisation de l'administration publique. Pour l'instant, merci. Excellente journée.
Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci, le journaliste.